OK, si vous voulez vous lever, on va lire Apocalypse, chapitre 17, versets 7 à 14. Apocalypse, chapitre 17, versets 7 à 14. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va... regarder un petit peu ce qu'on avait, on va reviser un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière et terminer ce passage-là. Et la semaine prochaine, bien, on va terminer le chapitre 17. Alors, on avait dit qu'on avait donné comme titre à ce passage-là le mystère de la femme et de la bête. Donc, on avait vu que dans le chapitre 17, versets 5 et 6, on parlait d'un mystère. Parce que ça disait, sur son front, était écrit un nom, mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Alors vraiment, la stupéfaction... C'est vraiment un individu qui arrive à un point où il ne sait pas quoi penser. Il est comme figé. Il est comme dans un état de il est vraiment figé, comme on peut dire. Alors, on avait vu que le chapitre 17 comprenait des grandes difficultés. La première, c'était d'harmoniser les deux idées concernant Babylone. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une cité et une femme. Et la deuxième difficulté... est d'expliquer le mystère de Babylone la Grande. On avait vu qu'elle est une femme et qu'elle est une cité. On avait vu différents versets sur lesquels on se basait pour rappeler que dans les Écritures, l'épouse de Dieu, l'épouse du Christ, est souvent comparée à une femme. Mais quelque part, la femme peut être aussi apostate. Donc, quelque part, c'est pas vraiment la vraie femme de Christ. Ou la femme de Dieu, mais elle se prétend comme telle. Mais on avait vu aussi qu'elle est une cité, donc on avait parlé de Babel, qui veut dire confusion. On sait que Babel, c'était l'époque où les hommes avaient le même langage, les mêmes mots, et ils s'étaient dit, bâtissons-nous une ville, une tour, faisons-nous un nom. C'est vraiment l'idée de vouloir établir un système complètement détaché de Dieu, un système à part, un système où... Alors, c'était vraiment Dieu a vu leur intention et il a confondu les langues et il a forcé les hommes à donner un ordre aux hommes de se disperser sur toute la terre. Et on voit qu'à l'heure actuelle, c'est pas ça qui est en train de se passer, les hommes sont en train de vouloir se rassembler et de revenir... dans les villes, de revenir. Alors, l'idée de la condamnation originale que le Seigneur avait faite dans l'Ancien dans la Genèse, on voit qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'ils sont en train de vouloir faire. Donc, on parle de deux cités. Dans les Écritures, on parle de Babel ou Babylone. C'est la cité que les hommes veulent construire, qui veulent servir le malin. Et on a la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est vraiment l'ensemble des croyants de toutes les époques. Donc, il est comparé à une ville. Donc, on avait vu la semaine dernière que dans le verset 7, on avait que le mystère était élucidé. Parce que le verset 7 dit la question, dit la chose suivante. Et l'homme et l'ange me dit, pourquoi es-tu stupéfait? On dirait que l'ange est en train de dire, « Me semble que tu devrais savoir. Pourquoi tu es stupéfait? » Mais il faut dire que de voir une image où quelqu'un qui se prétend de Jésus ou de Dieu, puis qui agit exactement dans le sens inverse, ça peut créer une difficulté dans notre esprit. Alors il dit, « Pourquoi es-tu stupéfait? Je te dirai le mystère de la femme. » Et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et 10 cornes. Donc, on avait vu que Jean était profondément troublé, confus. Et on a vu que le mot mystère, moi, je me souviens quand on était jeune, on allait à l'école et qu'il nous parlait d'un mystère, on avait l'impression qu'il parlait de quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. C'est pas ça un mystère, pas dans le sens des Écritures. Dans les Écritures, un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas révélé, qui nous est révélé plus tard. Alors, c'est important de saisir ça. Parce qu'on avait vu que dans les Écritures, il y a plusieurs endroits où le Seigneur utilise l'image ou le mot mystère, parce qu'on le voit, ceux qui ont les notes à la page 4, les principaux mystères bibliques. On avait fait une liste, là. Il y avait le mystère du royaume des cieux. Le Seigneur nous dit que le royaume des cieux, il y a quelque chose de mystère là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu venir. Les hommes, on l'ont découvert parce que Dieu a voulu le révéler. Après ça, on avait le mystère du salut en Jésus-Christ. Comment quelqu'un aurait pu deviner que l'être humain qui avait chuté en Adam, qui normalement aurait dû être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, comment quelqu'un aurait pu prévoir que Dieu enverrait son Fils incarné dans une chair d'homme pour venir réaliser? Il y avait quelque chose là-dedans, c'est juste le temps et les explications que Dieu a bien voulu nous donner dans les Écritures qui nous ont fait comprendre ce qui s'est passé. Donc le mystère du salut en Jésus-Christ, qui est appelé aussi mystère de la piété, mystère de la foi, mystère de l'Évangile. Et aussi le mystère de Dieu et de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelque chose de mystérieux de penser qu'on a le Saint-Esprit, donc Dieu, en nous. Pourquoi on ne comprend pas? C'est parce qu'on ne saisit pas la grandeur de Dieu, puis on ne comprend pas non plus l'immense grâce que Dieu nous fait de faire vivre le Saint-Esprit. Si on comprenait ce que c'est le Saint-Esprit, là, puis que Dieu nous ferait voir d'un coup sec que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vient nous régénérer, vient nous ouvrir la compréhension, on tomberait en la face contre terre en adoration. Moi, je suis convaincu. Le mystère de l'Église, le Seigneur parle aussi du mystère de l'Église. Pourquoi c'est un mystère? Parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui croyaient que Christ viendrait et qu'il serait leur Messie ont été sauvés. Il y a un mystère. Après ça, dans le Nouveau Testament, à partir de toute l'histoire, à partir du moment où Jésus est venu, qui a été crucifié, ressuscité, tout cela, aujourd'hui, ça fait partie du mystère de l'Église. L'Église va aller jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et même, elle va continuer dans l'éternité. Le mystère de l'enlèvement de l'Église, le mystère des 7 étoiles qui contient les révélations transmises par Jean ou cette Église de l'Apocalypse, le mystère de l'endurcissement d'une partie d'Israël pendant l'ère de l'Église. Les Écritures nous en parlent comme un mystère. Comment ça se fait que le peuple de Dieu, de l'Ancien Testament, quand Jésus est venu, ils n'ont pas pu le reconnaître? Ils n'ont pas su ou ils n'ont pas voulu? Peut-être.
Ils
étaient voilés. Donc, l'endurcissement, c'est un mystère de l'endurcissement. Le Seigneur nous donne un peu une réponse en Romains qui nous dit que il a endurci Israël dans le but de nous, dans le but de donner la grâce aux non-juifs. C'est un mystère qu'on a. Après ça, tu as le mystère de l'iniquité. Comment le péché a travaillé depuis le début jusqu'à aujourd'hui, continue de travailler. Et le mystère de Babylone, la prostituée. On est justement dans le passage qui est en train de... Alors, la fausse religion masquée de la fin des temps. On est en plein dans cette période-là. La religion supposément chrétienne de la fin des temps, c'est, la Bible en parle comme le mystère de Babylone, la prostituée. Babylone, donc la ville du malin. La ville, c'est l'ensemble de tous les croyants, si on peut dire, des non-convertis. C'est un mystère. Le mystère de Babylone, la prostituée. La fausse religion qui va être démasquée à la fin des temps. On commence à le voir un peu. Quelqu'un suit un petit peu la situation religieuse du monde. On commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Rome qui cherche à ramener toutes les dominations sur sa jupe, qui cherche aussi à s'allier avec toutes les religions du monde en disant que toutes les religions sont correctes. C'est là qu'on est rendu. Donc, mystère de Babylone, la prostituée. Donc, on avait vu qu'il y avait 7 têtes, 10 cornes, et on est rendu au le deuxième point, le mystère est expliqué, versets 8 à 12. On relit un petit peu le passage de manière à se remettre un peu. Alors, la bête que tu as vue a été, n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête. Car elle était, et elle n'est plus, bien qu'elle soit. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. L'expression « car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit », que nous trouvons vraiment à la fin du verset 8, en parlant de la bête, peut nous mystifier et nous rendre perplexes. Dans les Saintes Écritures, le mot « bête » est souvent utilisé au sens figuré, voulant signifier des empires et des dominations de la nature politique. Souvent, dans les Écritures, si quelqu'un prendrait le mot « bête », là, puis tu suivrais à partir de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse, on verrait que souvent, le Seigneur a utilisé le mot « bête » en parlant d'empire politique. Le Seigneur, on dirait, il comprend très bien ce que c'est la politique. Souvent, il agit comme des bêtes aussi. Alors, dans les Saintes Écritures, on peut aller voir, par exemple, Daniel, chapitre 7, versets 16 et 17, et versets 21 et 23, où on nous parle de 4 bêtes. Le Seigneur parle des empires politiques et il les compare à des bêtes. On connaît tout ça, ces bêtes-là. Il utilise, par exemple, un lion, un ours, un léopard. Et la 4e bête dont il parle dans Daniel, il ne lui donne pas un nom. Il fait tout simplement dire qu'elle est terrible. Je pense qu'il est en train de parler de la bête de la fin des temps. Daniel, chapitre 7, versets 16 et 17. « Je m'approchai de l'un des assistants et je lui demandai la vérité sur toutes ces choses. Et il me parla et m'en donna l'interprétation. Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Ici, c'est les Écritures elles-mêmes qui nous donnent l'interprétation. Verset 21, « Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. » Verset 21. Verset 23, « Il me parla ainsi, « La 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre » et qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Alors, comment comprendre un peu le langage des Écritures? Dieu se sert de ce langage-là. Et on l'avait déjà mentionné, si on connaissait la Bible mieux, on aurait moins de misère à interpréter les passages ou les mots qui sont utilisés. Si on regardait comment le Seigneur a utilisé le sens des mots dans d'autres passages ailleurs des Écritures. C'est ça souvent qui nous manque. On est une génération, les chrétiens modernes, j'irais, je pense pas que je me trompe beaucoup en disant ça, là, où la connaissance des Écritures a beaucoup diminué. Très peu de chrétiens connaissent toute leur Bible à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais souvent, les gens, je sais par expérience, là, beaucoup de personnes ne lisent que le Nouveau Testament, qui est une erreur monumentale. La Bible, c'est le livre de Dieu, du premier verset de la Genèse au dernier de l'Apocalypse. Et si on veut la comprendre, si on veut le comprendre, ce livre-là, il faut s'en imprégner et que tout le vocabulaire des Écritures devienne une seconde nature. Qu'on comprend quand le Seigneur parle d'une bête, il ne parle pas juste d'un lion ou d'un léopard. Il parle d'empire politique. Alors quand on commence à comprendre le langage et qu'on le traîne d'un livre à l'autre, quand on arrive à l'Apocalypse, on n'est pas écarté. Ce qui arrive qu'on est écarté aujourd'hui, c'est parce qu'on connaît si peu nos Écritures, qu'on arrive, c'est mystérieux. Mais oui, c'est mystérieux. Tu l'as même jamais lu dans l'Ancien Testament. Comment veux-tu que tu comprennes? C'est aussi simple que ça. Là. Alors, dans le tableau de la page suivante, ceux qui ont les notes, on va expliquer ce que signifie l'expression « car elle était » et « elle n'est plus », bien qu'elle soit. Alors, c'est l'explication du pasteur et commentateur Herman Oxema dans son livre, dans son ouvrage « Behold, he cometh, an exposition of the book of Revelation », chapitre 41, page 565 à 577. Je n'ai pas mis toutes ces pages-là. Là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire un tableau où on prend le contenu de ces pages-là et on les résume, ce qui nous aide à comprendre. Moi, j'aime beaucoup les tableaux. Chaque fois qu'on lit les Écritures, que vous prenez un livre qui a un tableau, si le tableau peut vous aider de quelque façon que ce soit à mieux comprendre la Bible, faites-vous des copies. Mettez ça dans les dossiers. C'est de même qu'on finit par s'accumuler du matériel et des fois, on se pose des questions. Ces tableaux-là, c'est précieux. Souvent, on ne fait pas ça, mais souvent, on a au 2 mois, on l'a oublié. Et des fois, on a intérêt à avoir un système de classification. C'est quelque chose qui nous manque un peu de nos jours. Donc, le mystère de la femme et de la bête, Apocalypse 17, versets 7 à 14. Alors, dans le verset 8, on a « la bête que tu as vue a été ». Donc, si M. Herman Oxema, qui est un pasteur qui a prêché 2 fois l'Apocalypse, une fois à l'autre, d'un couvert à l'autre, puis il l'a prêché 2 fois, lui, il dit que la bête que tu as été fait référence à Babel et à Nimrod. Vous souvenez-vous de ce passage-là dans les Écritures, Babel et Nimrod? Donc, Babel, c'est la fameuse tour où on voulait construire, où les hommes pouvaient avoir des contacts avec les cieux. Et c'était quoi? C'était-tu avec le Dieu créateur avec qui ils voulaient avoir des contacts? Non, c'était avec les démons. Ils voulaient avoir un contact avec les démons. La tour de Babel, c'était une tour que les hommes ont construite dans le but d'avoir des contacts avec les démons. Donc, Babel et Nimrod. Nimrod, c'était le roi qui a voulu faire ces choses-là et dire aux hommes, « Non, non, on s'en va pas. Le Seigneur nous a dit qu'on s'en allait partout, qu'on s'étendait. Non, non, on reste tout ensemble. On reste en ville. » Alors, c'était vraiment le premier geste de rébellion et de désobéissance à un ordre direct de Dieu. Allez, poussez-vous. Parce que quand vous êtes ensemble et que vous restez en ville, on voit qu'est-ce que ça donne. Donc, Genèse 11, versets 1 à 9, on voit qu'ils étaient un seul peuple, un seul langage, et il y avait un seul projet, Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche les cieux. » Donc, il y avait un accord commun entre tous les hommes de cette époque-là, dans un but précis qui était celui de la communication avec les esprits malins, l'esprit des démons. Alors, quel avait été le jugement du Seigneur? Que la bête que tu as vue a été. Confusion des langues. Donc, si les hommes parlaient tous le même langage, le Seigneur a fait en sorte que tous les hommes ont eu tous des langages différents. Un se met en français, l'autre en allemand, l'autre en russe. Mettre un russe, puis un anglais, puis un français ensemble, qui ne parlent pas la langue de l'autre, là, puis qui vont essayer de construire quelque chose ensemble. Fait que le jugement du Seigneur, c'est la confusion des langues. Et la deuxième, c'était la dispersion sur toute la surface de la terre. OK, verset 8. Mais ça dit aussi dans le verset 8, « La bête que tu as vue n'est plus. » Donc, Babel, comme telle, comme elle était dans le projet original, n'est plus. Donc, l'accord commun entre les hommes n'est plus. Les nations veulent maintenant la domination universelle de façon individuelle. Voyez-vous, au début, ce qu'il faut voir, c'est la volonté des hommes d'être tous ensemble dans un but précis, celui de l'adoration des démons. À un moment donné, elle dit « elle n'est plus ». Cet esprit-là n'est plus parce que les hommes ont décidé de maintenir la même idée, mais d'y aller nation par nation. C'est comme si les Russes avaient dit, je ne sais pas, les Russes n'existaient peut-être même pas à cette époque-là, mais c'est rien qu'un exemple. C'est comme si les Russes avaient voulu dire, ben, nous autres, on va y arriver. Nous autres, on va conquérir le monde. Nous autres, on va établir l'ordre. Nous autres, on va... Après ça, ça a été les Allemands, ça a été les Français, avec la Révolution française, etc., etc. Autrement dit, ça a été les hommes qui ont voulu conserver la même idée, mais nation par nation. Il dit, elle n'est plus. Verset 8, il y a une phrase intéressante, ça dit, « Elle doit monter de l'abîme. » Donc, on parle de quoi, là? De l'esprit de l'Antichrist, le malin qui va monter, et qui va vouloir rétablir le retour de l'accord commun entre les hommes. Et ceux qui sont le moindrement conscients de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est ça qui est en train de se passer. La volonté de ramener l'unité qu'il y avait à l'époque de la construction de Babel. C'est ça qui se passe, le truc là. Par l'Antichrist. Alors, la bête n'est plus, parce que là, si vous regardez, vous avez 1, Babel et Nimrod, 2, l'Égypte, 3, la Syrie, 4, Babylone, 5, les Médo-Perses, 6, les Grecs, 7, la Rome impériale et papale. Parce que là, il faudra rentrer dans les détails, il y aura beaucoup à dire là-dessus. Mais j'ai mis dans la colonne suivante, échec, échec, échec. Chaque fois que les hommes... nationalement, les Allemands, les Français, les Russes, appelez-les comme vous voulez, là, ont essayé de vouloir amener la domination universelle politique, ça a toujours été un échec. Alors, pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Les hommes voudraient établir leur royaume sur la terre et Dieu a dit non. Parce que si vous regardez dans Actes 17, verset 26, ça dit de Dieu... Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé que les Français auraient tel territoire, de telle place à telle place, puis il a dit que ça durerait de telle année à telle année. La même chose pour l'Espagne, la même chose pour tous les pays du monde. Dieu a décidé du territoire souverainement, il a décidé quand c'était pour avoir lieu, qui dominerait quoi, puis toutes les frontières, toutes. Et écoutez, ayant déterminé la durée précise et les bornes les frontières. Quand on pense à ça, là, les hommes ont toujours pensé, eux autres, que c'était eux autres par leur guerre qui faisaient en sorte que, on va conquérir, les Français sont allés conquérir ici et là, l'Espagne, l'Italie. Quand Dieu dit ça marchera pas, ça marchera pas. Ça a jamais marché, ça a toujours été un échec total. Jusqu'à ce que arrive la fin, où Dieu va permettre que l'Antichrist, qui va être l'équivalent de Jésus, mais dans le domaine du mal, autrement dit, il va y avoir Satan qui va s'incarner dans une chair d'homme. Il va vouloir faire l'équivalent de Christ. Et lui va vouloir ramener l'état d'esprit qu'il y avait au début quand ils ont voulu établir Babel. Alors, et je vous ai marqué, donc Ligue des Nations, c'est une Ligue des Nations. Alors actuellement, on voit un mouvement très clair, très, très précis, où les nations cherchent à se réunir avec un même but, le même qu'au début. Alors, l'esprit du départ est revenu. Donc, ça va être une Ligue des Nations. Donc, ça va être un gouvernement et une religion qui va être mondiale. Et là, ça va être l'idée, ils vont combattre contre l'agneau. Si on ne commence pas à le voir, là, ben, moi, dis, il commence à être temps qu'on se rouvre les deux yeux, là. C'est d'être ça qui se passe d'être là, présentement, là, en l'an 2021. Mais ça fait longtemps que ça dure, là. Pas d'hier, c'est que ça marche ce soir-là. Alors, ça nous dit que la religion et la politique vont s'unir dans le but de détruire l'œuvre du Christ, l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et qui est l'agneau? C'est le Christ. C'est la religion chrétienne. Ils vont vouloir combattre et vont vouloir l'éliminer. C'est vers ça qu'on s'en va, là. Qu'on se trompe pas, là. Puis ça, moi, je l'ai marqué dans la colonne « échec ». Mais il y a une chose qu'il faut prendre conscience, parce que ça dit « apparente réussite ». Parce que ça dit que pour une heure, est-ce que ça veut dire que Dieu va permettre que le malin prenne le pouvoir sur toute la terre et établisse sa volonté religieusement et politiquement pendant une heure, 24 heures, là? Non. C'est ça qu'il veut dire? Non. Je pense qu'il veut dire pour une très courte période de temps. Il va réussir, ça va être une apparente réussite, il va réussir à établir son royaume de l'Antichrist pour combattre l'agneau et les vaincre, mais pour une heure. Si le Seigneur l'aurait laissé faire, là, on serait dans des méchants draps. Mais là, le Seigneur a dit qu'à un moment donné, lui, il va dire, t'as assez, fini. Moi, j'ai hâte. Je pense que vous autres avez hâte. Moi, j'ai hâte. Vous devez avoir hâte, surtout aussi. Donc, il nous dit, chose très intéressante, alors retournons dans ceux qui ont la Bible ouverte, là, dans Apocalypse 17. Regardons qu'est-ce que le Seigneur dit qui va arriver à cette tentative des hommes de vouloir établir le royaume du malin religieusement et politiquement. Regardons ce que ça dit. Verset 8. Verset 8. La belle volonté ne l'est plus, la volonté de l'abîme, elle est à perdition, les bêtises. Donnera envoyé à la bête parce qu'elle l'était, n'était plus, qu'elle reparaîtra. Sais-tu? Il y a une triple affirmation. Sais-tu le verset 8? Elle doit monter de la main. Et aller à la perdition. Ça, c'est clair? Il dit que tout ça, ça va partir de l'enfer, mais ça s'en va à la perdition. Donc, autrement dit, la tentative, c'est encore un autre échec. Puis ça, on va au verset 11. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, elle est du nombre des sept. Et, encore une deuxième fois, nous est dit, elle s'en va à la perdition. Deux fois. Quand le Seigneur nous dit la même chose, trois fois. Verset 14, ils combattront, il parle de qui, là? L'ensemble de tous ceux politiques, religieux qui vont combattre contre l'agneau, donc contre l'agneau, contre son Église aussi. Contre l'agneau, parce et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Donc, trois reprises. Deux fois s'en vont à la perdition, puis trois fois l'agneau. Ils vont se battre contre l'agneau, l'agneau va les vaincre. Parce qu'il est. Ceux qui connaissent les chants, là. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Il est le roi des rois. Le grand roi qui domine sur tous les rois de la terre de toutes les époques. Le Seigneur des seigneurs. Encore, on peut dire des fois, quelqu'un, « Ah, c'est un seigneur de la finance. » Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Très intéressant. Fait qu'à trois reprises, le Seigneur dit, pour expliquer l'expression « a été, n'est plus et elle doit monter de l'abîme », moi, je trouve que en une page, le tableau explique que ce que vous allez trouver dans le livre, dans 565 à 577, 12 pages de livre. C'est ce que j'aime des tableaux. Parce que ça résume, ça ne dit pas tout ce qu'il dit dans les 12 pages, mais il reste que ça vous donne vraiment une bonne idée. Alors, dans le verset 9, ça dit « C'est ici l'intelligence qui possède la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. L'un vit et l'autre n'est point encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle vient des sept et s'en va à la perdition. Et les dix cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire, mais ils auront la puissance comme roi avec la bête pour une heure. » Maintenant, on va regarder un peu l'explication des 7 têtes et des 10 cornes. Ça dit les 7 têtes comme étant 7 montagnes. Alors, plusieurs commentateurs et interprètes de l'Apocalypse ont vu la ville de Rome dans cette image, puisque la ville de Rome est appelée la ville des sept collines. Remarquez une chose, par exemple. Elle ne dit pas la ville des sept montagnes. La ville des sept collines. La ville de Rome est construite, il y a des collines dans cette région-là. Il y en a sept. Il y en a plusieurs qui ont dit, « Ah, on vient de découvrir le sens. C'est Rome qui est... » Non. Plusieurs réformateurs voyaient la femme comme étant l'Église catholique, et les sept montagnes comme étant les sept collines sur lesquelles la ville de Rome est bâtie, et par conséquent le Vatican. Voyez-vous, les réformateurs, ils voyaient ça, la ville est bâtie sur cette colline, donc ils ont dit, « Ah, c'est elle la femme, c'est elle la bête. » Alors, Herman Oxema rejette cette idée. Il dit que c'est pas parce qu'elle est dénuée de sens, mais plutôt comme n'expliquant pas suffisamment le verset 9. Dans les Saintes Écritures, l'image symbolique de la montagne est souvent utilisée pour exprimer des empires et des royaumes et pour signifier la solidité et la stabilité. Si on parle d'un royaume, on dit c'est solide comme une montagne. On voit l'image de la solidité, de la force, de la puissance, de la stabilité, hein, c'est ça? Alors, Jérémie, pour démontrer que les Écritures utilisent souvent l'image de la montagne pour parler de ça, Jérémie, chapitre 51, versets 24 et 25. « Mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée, sous vos yeux, tous les maux qu'ils ont faits dans Sion, dit l'Éternel. Voici, je viens à toi, dit l'Éternel, montagne de destruction. » Il parle de quoi, là? Il parle de Babylone, l'ancienne ville de Babylone. Puis, il utilise l'image montagne de destruction. Il faut faire le lien, là. « Qui détruisait toute la terre. J'étendrai aussi ma main sur toi, et je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. » Parle d'une ville, il va faire de lui une montagne. Daniel, chapitre 2, verset 35. Encore une fois, l'utilisation du mot montagne pour parler d'un grand empire politique. Daniel 2, 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été. Et le vent les emporta. Et il ne s'en trouva plus de vestiges. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. De quoi on parle? On parle de Jésus. Il va détruire la statue sur le pied, ceux qui ont déjà vu des images, là, quelque part. Détruire la statue. La statue représentait l'ensemble des nations, des empires qui se succéderaient jusqu'à la fin. Et il dit qu'il y a une pierre qui va se détacher, qui va tomber sur les pieds, va briser la statue. Bien entendu, si tu brises les pieds, tout tombe. Hein? Il dit, mais la pierre qui avait frappé la statue, Jésus, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, le royaume du Christ commence à s'établir et va remplir toute la terre. Alors, dans le sermon de la semaine dernière, on avait identifié la femme comme représentant l'Église apostate et l'écuménisme, donc l'union des religions du monde, mais sans la centralité de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Cette prostituée a des relations illicites avec les chefs politiques du monde pour asseoir sa position, sa fortune, ses abominations spirituelles et sa renommée. Le catholicisme est bien sûr visé par cette interprétation, mais est inclus toutes les dénominations chrétiennes apostates et infidèles et l'association avec les religions sans Christ du monde entier. Là, il faut vraiment saisir que, anciennement, les réformateurs voyaient Rome. Autrement dit, c'était Rome uniquement, la religion catholique. Maintenant, on voit que le catholicisme a étendu ses racines, a étendu son influence, a ramené les protestants, une grande partie des protestants, sous son influence, avec ses doctrines, avec toutes ces choses-là. Donc, à quelque part, il faut vraiment voir ça. Et non seulement ils ont fait ça, de ramener les chrétiens apostats sous leur jupe, mais en même temps, ils ont inclus toutes les religions de la terre. C'est pour ça que la Bible dit que c'est une grande prostituée. Ce n'est plus la religion de la Bible, ce n'est plus la religion, ce n'est plus la personne de Christ telle qu'elle décrit dans les Écritures. Donc, elles ont terni la réputation du Dieu véritable et se sont vautrées dans la corruption et le mensonge. Donc, les sept têtes comme étant sept rois, on va aller un peu plus rapidement puisqu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Les sept têtes comme étant sept rois. Alors, dans le verset 10, ça dit, ça sont sept rois, cinq sont tombés, l'un vit et l'autre n'est point encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Elle vient des sept, et s'en va en perdition. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire, mais ils auront la puissance comme roi avec la bête pour une heure. C'est là que je vous disais tantôt. Les cinq rois et les royaumes sont souvent des mots interchangeables. Donc, si tu prends roi, royaume, tu pourrais interchanger ça, ça veut dire la même chose. Les cinq qui sont tombés, ça dit qu'il y en a cinq qui sont tombés. L'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse et les Grecs. Cinq sont tombés. Et il dit, l'un vit à l'époque de Jean. La Rome impériale existait. C'était elle qui menait, c'était elle qui dirigeait le monde entier à l'époque. Donc, l'une vit la Rome impériale. À l'époque où l'Apocalypse a été écrit, en 95 après Jésus-Christ, c'est l'Empire romain qui règne. Cet empire a duré jusqu'en 476. Du moins, dans la... il s'est effondré en 476, mais du moins dans la partie occidentale. Là, il faut que tu fasses la... C'est plus ou moins exact en disant 476, dans la partie occidentale. À Rome, son territoire était extrêmement grand à l'époque, la partie occidentale. En 476, ça s'est tout écroulé, et la partie orientale a duré un petit peu plus longtemps. Mais, en même temps, il dit, l'un vit, l'autre n'est point encore venu. Est-ce qu'on pourrait parler ici de la Rome papale? elle prépare le terrain à l'arrivée du huitième roi, celui de la fin. L'autre n'est point encore venu. À l'époque de Jean, c'était vrai. L'un est, l'autre n'est pas encore venu. Le Seigneur, il voit dans l'avenir. Parce qu'on parle de 476, on parle de au moins 300 ans après. Alors, nous avons observé dans notre tableau que l'esprit de Babel avait été puni par le Seigneur par la confusion des langues et par la dispersion des hommes sur toute la terre. Les hommes n'ont pas abandonné leur rêve de domination absolue. Ils sont simplement essayés de le faire par le moyen d'une nation à la fois, au lieu de l'union de toutes leurs forces. Les hommes de la fin des temps ont compris qu'aucune nation n'y arrivera seule et que seul le retour à la stratégie de Babel leur paraît prometteuse. Autrement dit, l'histoire a démontré que ça ne se peut pas une nation. Fait qu'ils ont dit, ben, le malin nous a mis à l'esprit, ben, unissez-vous. Faites-le ensemble. Alors les hommes, ça dit dans le verset 11, et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, elle vient des sept et s'en va à la perdition. Donc le huitième roi, il vient des sept. C'est la renaissance de l'esprit de Babel, une ligue où l'union des nations est l'union du religieux, du politique et de l'économique. Et que quand on regarde la situation internationale actuellement, on le voit, là, c'est clair devant nous. Là. C'est vraiment l'union des nations, l'union du religieux, l'union du politique, l'union de l'économique. Alors l'idée qui les unit est celle de la destruction de l'Église de Jésus-Christ, de l'établissement du gouvernement mondial et de la fausse religion mondiale. C'est le vieux rêve de Nimrod à la sauce moderne. Pasteur Oxyma résume ainsi. Pour récapituler, en bref, il y a donc 8 puissances mondiales en tout. 6 ont été en Égypte, en Assyrie, en Babylone, en Perse, en Grèce et à Rome. La 7e n'est pas encore, ou si elle est aujourd'hui, elle n'est pas encore clairement et complètement manifestée. Son existence sera particulière à cet égard, qu'elle visera à l'unification et à la combinaison de tous les pouvoirs qui existent actuellement. Et cela mènera à la dernière ligue des nations pour réaliser le royaume de l'Antichrist. Le passage nous indique qu'ils auront une victoire, mais de très courte durée, pour une heure. Pour nous rassurer, relisons cet encouragement des Saintes Écritures au psaume 97, verset 5. Alors, souvent on parle des montagnes physiques et les royaumes politiques de la terre, quand on parle de montagnes. Il dit « Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. » Alors, les gouvernements peuvent être très forts, mais devant l'Éternel, c'est comme le feu, la cire devant le feu, la cire à fond. Donc, verset 13 et 14, « Ils ont un même dessein, les nations ensemble, un même dessein. Ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. » L'ensemble des nations vont donner leur puissance et leur autorité à la bête. « Ils combattront contre l'agneau. » C'est clair, ça? Mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, les appelés, les élus et les fidèles. Autrement dit, le Seigneur va gagner, puis tous ceux qui sont avec le Seigneur vont gagner en même temps. Alors, les forces combinées de la religion, de l'économie et du gouvernement mondial s'entendront dans leur désir de combattre Dieu, l'agneau et son Église. Ils projetteront de détruire l'Église de Jésus-Christ et toute obéissance à Dieu. Ils utiliseront tous les moyens pour éloigner les hommes du Seigneur. Ils attaqueront violemment sa parole, son adoration, son nom, son sang, sa cause, son royaume et son peuple. Tout sera mis en œuvre pour nier ou corrompre les vérités bibliques et pour rejeter l'autorité de la Bible. Toute forme de véritable adoration sera combattue pour nier que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils mettront une énorme pression sur les hommes pour les amener à déifier le royaume de l'Antichrist et à les conduire dans toutes les formes de vice et de l'idolâtrie. Ils combattront et feront violence au véritable peuple de Dieu, les élus, les appelés, les fidèles en Jésus-Christ. Daniel, chapitre 7, verset 21. Ils vont avoir une victoire temporaire et très courte. Verset 21, « Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. » Donc, ils vont avoir un moment, ils vont gagner. Apocalypse, chapitre 13, verset 4, « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui combattra contre elle? » Cependant, les Écritures ne nous laissent pas ignorants sur l'issue de cette guerre spirituelle. L'assurance absolue de la victoire nous est donnée à trois reprises. Alors, on les a vus tantôt, verset 8, verset 11 et verset 14. Deux fois, c'est mentionné, « S'en va à la perdition » dans le verset 8, « S'en va à la perdition » dans le verset 11, « L'agneau les vaincra » dans le verset 14. Si on croit Dieu, on n'a pas de problème. Deux, trois applications, et on termine là-dessus. Rendons grâce à Dieu. Il est lumière et éclaire notre chemin et notre compréhension de ses voies. Le Seigneur élucide les nombreux mystères annoncés dans les Saintes Écritures. Deuxième application, c'est un principe bien connu dans l'herméneutique, la science de l'interprétation des textes de la Bible. La Bible contient tout ce qui est nécessaire à sa compréhension en elle-même. Plus nous connaissons la Bible, plus nous avons de la facilité à bien l'interpréter. Consacrons-lui plus de temps pour la lire, l'écouter, la méditer, la mémoriser et l'étudier. Nous nous approcherons ainsi du Seigneur et nous développerons la crainte de sa personne qui est le commencement de la sagesse. Troisième et dernière application, louons le Seigneur pour sa bonté de nous avoir révélé que nous sommes plus que vainqueurs. Notre victoire finale est assurée. Que notre grand, glorieux et merveilleux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement.